Lambadodo qui accélère, Lambadodo qui termine, Lambadodo est champion du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça.
Regardez, l'équipe de France qui fait la saga.
Sport has the power to change the world. It has the power to unite people.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette 70e émission Vivons Sport sur Cause Commune. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau cycle sur les risques auxquels sont exposés les sportifs, notamment les plus jeunes. C'est une période extrêmement chargée en événements sportifs. Nous avons souhaité nous tourner vers les principaux intéressés, ceux qui nous offrent le spectacle, ceux qui nous font vibrer, ceux qui devraient être mis dans les meilleures conditions depuis le jeune âge. Nous allons voir que la réalité est parfois tout autre et nous demander comment faire en sorte de protéger nos athlètes comme il se doit. Dans cette émission, nous allons parler des abus sexuels dans le sport. Ce n'est pas la première fois, nous n'avons pas attendu l'expression courageuse de Sarah Abitbol pour évoquer ce sujet. Nous allons revenir sur d'autres cas, voir s'il y a des avancées sur ces sujets et surtout aborder les orientations à prendre aujourd'hui. Pour échanger sur ces questions épineuses, avec nous en studio, Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac, journaliste réalisateur de documentaires, auteur notamment du film « Violence sexuelle dans le sport, l'enquête » en 2020 et du livre « L'entraîneur et l'enfant, les abus sexuels dans le sport » aux éditions du Seuil en 2021. Bonjour Pierre-Emmanuel.
Bonjour.
Merci à Olivier Grieco pour la réalisation et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Pierre-Emmanuel. Alors, comment tu as été amené à t'intéresser aux violences sexuelles dans le sport ?
Alors, un peu par hasard, en fait. Je suis journaliste de formation, même si maintenant je suis plus réalisateur de documentaires et auteur. En 2007, on me met dans les mains, je travaillais à l'époque pour Envoyé spécial, un livre qui est le livre d'Isabelle de Mongeau, « Service volé ». Et dans ce livre, elle décrypte le mécanisme qu'elle a subi, et en particulier le mécanisme d'emprise. Elle a fait un travail personnel avec un psychothérapeute. Et là, en le lisant, je me rends compte qu'effectivement, elle met au jour un certain nombre de mécanismes qui se sont appliqués à elle, mais qui peuvent s'appliquer à beaucoup d'autres. Et donc, je suis allé convaincre Guylaine Chenu et Françoise Joly, les responsables de l'émission à l'époque, de faire un sujet là-dessus et d'essayer d'élargir la problématique à son cas, mais aussi à d'autres cas, dans le sport amateur, ou alors... voilà, et puis aussi, tiens, d'ailleurs, je sais plus, on l'a pas dit peut-être, mais figurez-vous qu'il y avait trois histoires dans le reportage que j'ai fait alors pour Envoyé spécial, et il y en avait une qui mettait en lumière Gilles Beyer. C'était en 2009. Et c'était voilà, la personne qui a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec Sarah Abitbol 12 ans après.
Alors, avec Isabelle de Mongeau, hein, son livre est sorti en 2007. Il y a eu le premier rapport ministériel en 2009 de Greg Descamps sur ces questions-là, avec certains chiffres. Mais toi, tu as été voir aussi ce qui se passait ailleurs, dehors de la France et en Angleterre, aux États-Unis. Peut-être que tu peux revenir sur certaines enquêtes peut-être moins connues des auditeurs. Alors, il y avait l'affaire des joueurs, des jeunes joueurs de foot, peut-être,
voilà,
sur lequel tu peux revenir,
tout
en
à
Angleterre.
Fait. Je suis, voilà, tout ça est resté un petit peu en sommeil après 2009, après ce reportage. Moi, j'ai travaillé sur d'autres problématiques. Et au moment de l'affaire Nassar aux États-Unis, donc, qui a touché la gymnastique américaine avec un nombre de victimes absolument délirant. On est prêt. Il y a certains chiffres qui avancent 500 témoignages à charge.
Puisque tu parles de celle-là, peut-être que tu peux expliquer aux auditeurs ce qui s'est passé dans cette fédération alors américaine.
Un homme qui était soigneur, qui avait un diplôme d'ostéopathe, avec le statut qui va avec aux États-Unis, travaillait donc dans le système sportif américain. Le sport de haut niveau est souvent attaché aux universités, historiquement. Et donc, il travaillait pour une université et il était attaché à l'équipe olympique américaine, de gymnastique américaine. Et cet homme, alors qu'il y a eu plusieurs dénonciations de la part de victimes jusqu'au sommet de la fédération et dans les responsables d'université, pratiquait des attouchements, des pénétrations digitales sur les jeunes filles sous prétexte de leur débloquer ceci ou débloquer cela, le coccyx, machin, etc. Et donc, ça se passait même parfois alors que les parents étaient dans la pièce. Il y a des témoignages qu'on trouve facilement sur Internet qui sont absolument glaçants, où finalement cet homme jouait en quelque sorte avec le risque d'être découverte et d'être découvert, et était dans un sentiment d'impunité absolument vertigineux, puisque donc il arrivait à faire ces gestes sans que la victime ne les remette en question ou se pose des questions, ou alors très très peu l'ont fait. Donc voilà, l'histoire est sortie, grâce en particulier à deux journalistes de l'Indianapolis Star, et c'est une des choses que je raconte dans le livre, puisque moi j'étais en contact avec un avocat qui s'appelle John Little, dont la femme est avocate elle aussi, et qui travaille à Indianapolis, et cet homme, Jessica, avait le dossier, et traitait le dossier depuis plusieurs années. Elle a essayé d'avertir, elle avait donc des victimes qui étaient venues la voir, elle a essayé d'avertir les autorités locales, la gymnastique, etc., et il ne s'est rien passé pendant des années. Et un jour, elle était amie avec la journaliste de l'Indianapolis Star, elle lui a fait passer le dossier, celle-ci a commencé à creuser l'affaire, et elle a recontacté certaines victimes, dont Rachael Den Hollander, qui se trouve être avocate elle aussi, et puis celle-ci a décidé de témoigner dans l'Indianapolis Star, et à la suite du témoignage, il y a eu une avalanche de témoignages, et ensuite l'homme a été arrêté, mis en examen, et condamné à la prison à vie, il a plus de 200 ans de peine. Ça, c'est l'affaire Nassar.
Ça, c'est l'affaire Nassar. Et donc...
Et en même temps, à l'époque, je vois aussi... Donc, on est en 2016. Nassar, c'est septembre 2016. Ensuite, en novembre 2016, il y a un papier dans le Guardian, signé Daniel Taylor, qui est le témoignage de Andy Woodward,
un joueur pro.
Oui, un joueur pro, voilà, mais de l'équivalent de la 3e division, qui reconnaît avoir été victime et raconte lui aussi tout le processus dont il a été victime. Et de la même manière que ça s'est passé avec l'Indianapolis Star, cet article déclenche, alors là, aussi une avalanche, mais encore plus grande en Angleterre, puisque 15 jours après, on est à 300 témoignages, et aujourd'hui, un an et demi après, la cellule spéciale qui traque les pédophiles en Angleterre avait comptabilisé plus de 3000 affaires. Donc c'était vraiment des chiffres absolument dingues, et donc c'est à la suite de ces deux événements que je voyais se dérouler que je suis allé voir donc un producteur et Arte, et que les deux ont décidé de me suivre, et j'ai fait cette enquête. Donc c'est une enquête qui était, je parle du documentaire, et le livre s'appuie en partie sur cette enquête, même s'il la complète et il va plus loin sur un certain nombre de questions. Et fait d'autres révélations. Bon. Si vous voulez, à un moment donné, ils m'ont cru, et j'ai dit, attention, ça va arriver en France. Voilà. Et on était donc fin 2016, début 2017.
Ah, dernière affaire, peut-être, avant d'arriver en France, où il y a beaucoup de choses à dire aussi, il y a des choses assez sidérantes aussi à la Fédération de natation américaine.
Alors, c'est un des volets de mon enquête. Moi, j'ai décidé de segmenter mon travail en partant de la base, c'est-à-dire témoignage des victimes, et en remontant jusqu'au Comité international olympique, qui a une autorité un peu complexe à établir, mais morale indiscutable sur le sport sur la planète entière. Donc je monte comme ça les échelles des responsabilités et des causalités de ce phénomène. Donc il y a l'un de ces chapitres qui est lié à la... dans lequel je creuse en quelque sorte la responsabilité des fédérations, et je parle d'une affaire dont on a très peu entendu parler en France, ou pratiquement pas, qui est celle de USA Swimming, qui est donc la fédération de natation américaine. Et je décrypte, je désosse méticuleusement le mécanisme qui a été mis en place pour faire taire les victimes, faire taire les familles. Ils sont allés, si vous voulez, pour donner un petit exemple, ils sont allés jusqu'à créer une société dans un paradis fiscal à la Barbade, qui était une assurance dédiée avec un certain type de police, de façon à ce que lorsqu'il y avait des plaintes qui arrivaient des parents, les parents se sentent coincés par la police qu'ils avaient signée et qu'ils partent avec un petit chèque.
Police d'assurance.
Ouais. Voilà. Ils partent avec un petit chèque et n'aillent pas voir l'autre police, la vraie.
Voilà. C'est ça, c'est ce que je voulais faire
régalienne.
Voilà. Donc là, c'était vraiment une stratégie très poussée avec une fédération qui savait bien qu'il y avait de gros problèmes et qui avait monté sa compagnie d'assurance, en fait.
Voilà, je creuse, si vous voulez, l'évolution sur près de 40 ans. Et on se rend compte qu'aux États-Unis, il y a eu le Ted Stephen Axe qui met en place, en gros, des fédérations par discipline olympique à partir des années 80. Et donc, la fédération de natation se crée en quelque sorte à ce moment-là, et il commence à avoir des problèmes très rapidement. Et ce que je mets au jour, c'est qu'à ce moment-là, des avocats, les avocats sont très présents dans la culture américaine, on le sait, en particulier dans le sport, des avocats viennent conseiller très clairement la fédération de se préparer à un phénomène qui est probablement extrêmement problématique en termes notamment, quand on connaît le droit américain, de dommages et intérêts. Voilà. Aux États-Unis, ça peut être très vite des millions de dollars. Dans l'affaire Nassar, on est à un demi-milliard de dollars. Hein. Donc, voilà.
Donc effectivement, dans ton livre, tu prends des exemples internationaux, mais après... ou avant, non, je crois que c'est même après, dans l'ordre du livre, il y a aussi,
pyramide.
Voilà, il y a les problèmes en France. Alors, on peut peut-être prendre quelques cas, je ne sais pas, peut-être la fédé de motocyclisme
Alors voilà, je me suis appuyé, en fait, à un moment donné, voilà, je regarde les responsabilités, donc comment fonctionne la victime, comment fonctionne celui qui commet le crime, la responsabilité des parents, la responsabilité du club, et puis il y a la responsabilité de l'État, à un moment donné. Et j'ai choisi de traiter ce chapitre-là en France, et de m'appuyer. Pourquoi ? Parce que, en France, il y a une histoire particulière d'interventionnisme de l'État par rapport au monde sportif. C'est considéré en quelque sorte comme une espèce de service public, comme une mission dans laquelle l'État a son mot à dire, puisqu'il délègue, il donne en quelque sorte l'autorisation aux fédérations d'utiliser le drapeau français, l'hymne français, de représenter la France dans les compétitions internationales, entre autres.
Bon. Et d'organiser les championnats nationaux.
Et d'avoir un pouvoir... petit pouvoir judiciaire, enfin, etc. etc. Donc, j'ai décidé de creuser cet aspect-là en France. Je me suis dit, si vous voulez, de façon, on va dire, un petit peu faussement naïve, mais que, voilà, quitte à aller voir le pouvoir de l'État face au pouvoir du monde sportif, autant le faire dans un pays où l'État est censé avoir du pouvoir. Et donc, j'ai travaillé sur l'histoire de la Fédération française de motocross et sur l'histoire de Mélissa Baye, c'est d'une autre jeune femme qui... je crois qu'il a donné son prénom, mais on va essayer de respecter son anonymat. Je ne suis pas certain à 100% qu'elle veuille donner son identité. Donc il y a deux victimes, et c'est une histoire dans laquelle la première victime a prévenu des abus sexuels, des viols qu'elle a subis de la part d'un homme qui est incarcéré. Donc lui, on peut donner le nom, il s'appelle Michel Merel. C'est un homme qui a fini de deuxième du Paris-Dakar. Voilà, c'était une star du motocross. Il est toujours incarcéré. Et donc cet homme a violé cette jeune fille. Cette jeune fille, lors d'un stage à Paris à la Fédération française de motocross au siège, va voir le DTN adjoint et lui raconte son histoire. Et le DTN adjoint va voir son DTN, les deux hommes en parlent au président de la fédération et rien ne se passe. Et trois mois plus tard, une autre jeune fille, celle dont je n'ai pas livré le nom, est également abusée sur le plan sexuel. Voilà, donc c'est cette histoire que je raconte pour essayer de voir, en quelque sorte, le poids de ces fonctionnaires, de ces agents publics que sont les CTS. Les CTS sont des agents publics qui ont...
C'est les conseillers techniques sportifs.
Voilà.
Je donne
bien sûr.
Sigles. Et on rappelle qu'en France, il y a l'article 40 pour les fonctionnaires qui fait qu'ils sont obligés de signaler dès lors qu'ils connaissent...
Voilà, ils ont une indépendance statutaire, a priori. Et donc, voilà, ils ont l'obligation
de signaler
au procureur. Et c'est une... Voilà, s'ils ne le font pas, ils peuvent être incriminés. Donc, c'est cet exemple-là que je rapporte à la ministre, trois mois avant l'affaire Abitbol. Et... Il m'avait été dit, d'ailleurs, il m'avait été demandé expressément de ne pas parler d'un cas particulier, ce que j'ai fait malgré tout. Et elle m'a répondu, et elle était horrifiée par ce que je lui rapportais, mais j'ai demandé quelles mesures allaient être prises. Mediapart en avait parlé auparavant, hein, 2017, ça avait été les premiers à sortir cette affaire. Et rien ne s'est passé, et rien ne se passe. Et puis ensuite, il y a l'affaire, il y a l'article, l'enquête des collègues Gastaldi et voilà à Disclose qui sort voilà un nombre complètement dingue d'affaires. Donc là, c'est un premier virage. Notre ministre convient elle-même que ça lui ouvre les yeux. Et puis ensuite, quelques semaines plus tard, le tremblement de terre, Sarah Abitbol, avec le travail d'Emmanuel Anison au Nouvel Obs. Sans oublier l'équipe aussi.
On peut rappeler que Laura Flessel, avant ministre, avait dit qu'il n'y avait pas d'omerta et avait...
alors c'était, pas, voilà, c'était, tout à fait, c'était tout à fait affligeant. Ouais.
Alors on verra, on va parler de la sortie du silence. On va le faire après la pause musicale que tu as choisie. Est-ce que tu t'en souviens de laquelle ?
Tout à fait, voilà. C'est messieurs Texier et Sclavis, avec un morceau, je crois, dont le titre est « À nos bons ».«
À nos bons » d'Aldo Romano, Louis Sclavis voilà, et Henri Romano. Texier. Pourquoi ce choix ?
Je crois qu'il apporte un peu de paix.
D'accord. Donc, et de sérénité. Un peu de paix avec un adobo.
Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Thank you.
Vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission d'aujourd'hui porte sur les abus sexuels dans le sport. Nous sommes toujours en studio avec Pierre-Emmanuel Luneau de Rignac, réalisateur du film Violence sexuelle dans le sport, l'enquête, et auteur du livre L'entraîneur et l'enfant, les abus sexuels dans le sport aux éditions du Seuil. Alors on a parlé de cette affaire dans la Fédé de motocyclisme, de Sarah Abitbol, il y en avait déjà eu quelques-unes avant, d'Isabelle de Mongeau.
Catherine Moyon de Bec,
la première pionnière dans les années 90. C'est vrai que après Isabelle de Mongeau, il y a eu quand même quelques petites réactions. Et puis depuis l'affaire Abitbol, presque toutes les semaines, on a l'impression qu'il y a une nouvelle fédération dont on parle. La fédération, donc, il y a eu la natation, l'équitation. Bon, bref, beaucoup à dire. Là, en février, à la deuxième convention sur les violences sexuelles dans le sport, les chiffres qui ont été avancés par la ministre, qui ont été relevés par la cellule mise en place, c'est 420 personnes qui ont été mises en cause. On rappelle que c'est 96% d'hommes. 387 signalements, qui a eu 191 mesures prononcées, 48 fédérations sportives concernées. Ça, c'était en février. Pour toi, est-ce que ce sont les chiffres? C'est en dessous?
Oui.
Est-ce que c'est bien d'avoir déjà
bien sûr,
sorti
c'est
ça? Est-ce qu'on est loin de la réalité ou...
Alors, ce sur quoi... Il n'y a pas, si vous voulez, une enquête quantitative précise. C'est-à-dire, on n'a pas d'enquête qui est avec 8 millions de témoignages. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que, voilà, par exemple,
ça,
en
Angleterre...
Ça,
c'est les signalements qui ont été faits.
Voilà. Donc, il y a cette zone grise des crimes impunis dont les victimes ne parlent pas. L'étude sur laquelle je me suis beaucoup appuyé est celle de Tine Vertomen, cette chercheuse en criminologie à l'université d'Anvers. Elle a fait une étude donc sur 4000 personnes de plus de 18 ans qui avaient pratiqué du sport dans un club. Eh bien, elle arrive sur le chiffre de 14% d'entre eux qui ont subi une forme de violence sexuelle. 14%, donc sur 4000 personnes. Donc, si vous voulez, voilà, ça fait 1 sur 7. Alors, il y a quoi, 16 millions de licenciés en France?
Oui, ça fait...
1 sur 7, ça fait pas 430 cas.
Alors,
c'est rigolo parce que figurez-vous, je suis père de famille et j'ai un fils qui fait du tennis. Il fait du tennis dans la banlieue ouest parisienne. Et je le change de club, je vais dans la bourgade d'à côté, parce que je trouvais que l'ambiance était meilleure. Bon. Et en arrivant dans la bourgade d'à côté, on me dit, mais voyons, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé dans votre club? Le club de... Je vous parle d'une histoire vraie, hein, le club de mon fils. Alors je dis non, pas du tout, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien enfin, Monsieur X, je ne vais pas donner son nom, l'affaire est en cours, Monsieur X a été viré pour son comportement avec les jeunes. Ah bon? Alors... Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, c'est du cas pratique, si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai signalé la chose à la FFT. On m'a renvoyé la cellule.
FFT, c'est la Fédération
française de tennis. J'ai quelques... Ils me connaissent un petit peu. Et on m'a renvoyé à faire une déclaration. Donc, j'ai écrit, cet homme, machin. Je suis inquiet. Que s'est-il passé avec autour de cet homme? Il a été viré du club initial. Répondez-moi. Eh bien, ça fait... plus d'un mois, peut-être deux mois que je n'ai pas de réponse. Donc, on voit, j'ai testé de façon... Il y a les statistiques, si vous voulez, et il y a le cas pratique. Les cas pratiques, c'est moi qui suis... pardon, père de famille, qui suis là face à... Mon fils a été pendant 5 ans dans ce club, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et alors, autant vous dire que j'ai téléphoné au club original, ce type a été muté dans un autre club de la banlieue ouest parisienne. J'ai téléphoné à notre club et on ne me dit rien. On ne me dit rien. Donc, si vous voulez, on touche du doigt. Il y a les chiffres. Il y a les chiffres. On peut se féliciter des chiffres. Et il y a la réalité concrète que j'ai testée sur cette affaire-là. S'il faut, cet homme, il ne s'est rien passé. S'il faut, il a dit deux insultes ou il a mis une main sur l'épaule. Mais enfin, on ne vire pas quelqu'un, un président de club de tennis, pour rien. Eh bien, je suis sans réponse. Et les parents des deux clubs, celui qu'il a été forcé, contraint de quitter, et celui dans lequel il travaille aujourd'hui, sont aussi sans réponse. Voilà comment on traite aujourd'hui, alors que, si vous voulez, je suis... d'une certaine façon la bête noire de ces questions et que voilà, je suis un petit peu repéré, repérable, et bien voilà comment on me traite.
Alors il y a maintenant un contrôle d'honorabilité prévu pour les éducateurs sportifs professionnels. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est la bonne mesure?
Enfin, Enfin, dans l'affaire que je citais, qui était dans le club de foot, je suivais en 2009 dans Envoyé spécial, j'interviewais le maire d'un club dans lequel un type avait été condamné pour des viols sur trois enfants. Autant vous dire que les enfants, ça a été peut-être la pire expérience de toute ma carrière de 25 ans. L'un d'eux est mort. Des suites de son comportement et des suites de sa dépression après ce qu'il avait subi. Et j'interviewais le maire à l'époque et je lui disais, mais monsieur, vous avez vérifié un petit peu d'où vient, parce que ce type, en gros, passait d'un club à l'autre. Il était dans les Landes, et puis il est parti en Bretagne, et puis alors on n'a rien dit. C'est le même parcours, si vous voulez, c'est pour ça que je me permets de m'énerver un petit peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'omerta, elle est là, on la touche du doigt. Hein. Donc cet homme-là était passé d'un club où il avait fait des victimes, dans les Landes, il était arrivé dans un premier village en Bretagne, il a fait des victimes, mais personne n'a rien dit. Oh, le maire dit, oh, écoutez, quand même, vous savez pas faire, ça va faire un scandale, etc. Bon, et il est allé dans un autre club, dans le club d'à côté, où finalement il a été arrêté. Bon, je pose la question au maire, et le maire me dit, ah, mais vous savez, je lui dis, vous savez, poser les questions sur d'où il vient, etc. Ah, vous savez, il n'y a pas fou, là, hein, pour s'occuper des gosses le mercredi après-midi. Voilà. Donc ça, c'était en 2009. Donc enfin.
C'est ça, on a eu des victimes, notamment Kevin Massé dans le football, qui était l'une des N victimes d'un même agresseur. Voilà. Donc malheureusement, ces choses ont été courantes. La question, c'est est-ce qu'il se passe quelque chose ? Il y a ces chiffres quand même, il y a des fédérations qui mettent en place des plans, mais... Moi, ce qui m'intéresse pour savoir comment bien agir, c'est est-ce qu'on peut expliquer ton analyse des problèmes qui sont posés, parce qu'on agira bien si on connaît bien le problème.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis, et je revendique, si tu veux, je revendique mon énervement par rapport à ça, parce que j'ai eu des hommes de 54 ans qui... me pleurer sur les épaules. J'ai vu des gens qui sont aujourd'hui décédés. J'ai eu quelqu'un comme Mélissa Bice face à moi, dont la mère s'est jetée dans la Garonne parce qu'elle n'avait pas su protéger sa fille. Bon.
Oui, on parle de choses si extrêmement graves.
Donc, hein. Je suis, en quelque sorte, et je revendique, pas forcément de fierté à avoir, mais d'être le réceptacle de ces douleurs-là. Donc, je parle effectivement des trains qui n'arrivent pas à l'heure, comme on dit en journaliste. C'est-à-dire, je parle de ce qui ne va pas. Je ne parle pas de ce qui va. Et je n'ai pas la prétention, même si je commence à travailler un petit peu via une société de conseil qui s'appelle Altaïr et qui est une société de conseil en RSE pour les entreprises, je commence à essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un qui va essayer d'aller plus loin, de s'engager, de proposer des solutions. Mais je le fais à peine. Bon. Donc voilà, je suis plus dans l'analyse des problèmes. Et
donc,
c'est lourd de
alors,
porter ça et je revendique
parce que le temps passe,
de souligner ces problèmes-là.
Ils sont vertigineux.
D'abord, il y a le silence. Il faut arrêter de mettre la pression sur les enfants, évidemment, mais même sur les adultes. Les gens qui sont passés par là ne parleront pas. Ils n'ont aucun intérêt à parler. Voilà. Ne serait-ce que par ce dont je parlais tout à l'heure, qui est la responsabilité des parents. C'est, combien d'adultes aujourd'hui ne veulent pas risquer que leurs parents se disent « Mon Dieu, je n'ai pas su protéger mes enfants ».
Est-ce que les parents sont à la bonne place dans le projet sportif entre l'entraîneur, leur jeune ? Est-ce qu'ils doivent être plus impliqués, moins impliqués ? On a des exemples de parents très impliqués, d'autres qui font des transferts sur leurs enfants et qui laissent jeunes... à l'entraîneur et
alors, c'est pas la même chose,
avec une confiance totale.
Voilà, dans le haut niveau et dans le sport de l'après-midi,
loisir,
du week-end, loisir, amateur, c'est pas la même chose. Les parents trop impliqués peuvent interférer et effectivement nuire un peu au parcours de l'enfant et du futur champion. Néanmoins, je pense que c'est vital qu'ils soient quand même toujours présents. Hein, ne serait-ce que parce qu'ils sont des parents. L'entraîneur, le club ne doit pas devenir la seconde famille. C'est un terme qu'on entend souvent. La grande famille du sport. Ou ça a été ma seconde famille. Non, on n'a qu'une famille. Bon, avec ce que ça veut dire, c'est-à-dire des relations familiales. Bon. Je crois qu'effectivement, après, il y a aussi donc les parents qui s'investissent trop, et puis il y a les parents qui, surtout, et c'est le grand problème, qui ne s'investissent pas assez. si vous voulez, quand, dans le cas dont je parle, je n'étais pas à l'aise, moi, après avoir travaillé sur ce cas-là, je n'étais pas à l'aise de poser les questions et de téléphoner au club en disant « qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur ? C'est quand même dingue !» Les parents n'ont pas à se sentir responsables de poser les questions pour savoir si tout le monde a son brevet, s'il y a une vérification du casier judiciaire, s'ils ont une charte éthique dans le club. C'est aux fédérations d'être proactifs et de proposer immédiatement sur Internet, et pas en affichant des trucs comme ça sur un morceau de liège dans la salle des sports ou à côté de la buvette, mais c'est à eux de rassurer les parents. Parce que les parents, aujourd'hui, font confiance. Et c'est effectivement un problème majeur. Les parents doivent se réveiller et doivent, à un moment donné, oser poser des questions. On pose des questions, il ne viendrait à l'idée de personne que le prof de maths du collège de la petite la raccompagne le soir à la maison ou les invite en week-end.
Donc il y a des questions à se poser. Donc sensibilisation des parents, c'est une chose. Tu décris aussi la relation entre l'entraîneur et le jeune, et je pense que ça vaut le coup qu'on parle un peu de cette fascination que tu décris sur le corps de l'athlète.
Tout à fait, non, mais j'en ai fait le titre de cette enquête, de cet ouvrage, L'entraîneur et l'enfant, donc c'est tout à fait fondamental. Alors, il n'y a pas que des entraîneurs, mais c'est quand même la majorité parmi les crimes et les abus sexuels et les violences sexuelles, c'est dans la majorité des cas, très grande majorité des cas, des entraîneurs. Mais Anna Sarn, elle ne l'était pas. Bon. Il se noue quelque chose qui est fondamental, et plus l'enfant progresse dans son sport, plus cette relation devient forte et exclusive, justement, en éloignant les parents. Il y a, pour parler en particulier du haut niveau, il y a quelque chose qui me semble fondamental et qui est encore tabou, et j'explique notamment pourquoi, qui est justement cette espèce de relation d'attirance. Voilà. L'enfant, et en particulier la jeune fille, quand elle se retrouve, quand elle vit sa puberté pendant des années avec cet homme qui est une figure potentiellement de père, une figure de père, oui, eh bien, elle peut être tentée, sans aller chercher des grands concepts psychanalytiques, mais effectivement, elle est attirée par son entraîneur. Voilà. Et c'est à l'entraîneur de dire non. Évidemment, ça va sans dire, l'entraîneur peut être attiré par ce corps de jeune fille ou de jeune garçon qu'il manipule, qui est presque le prolongement du sien, puisqu'il le connaît par cœur. Hein, je pense que combien d'entraîneurs peuvent fermer les yeux et dessiner le genou, l'épaule ou la fesse de leur athlète. Donc, il faut faire attention à ça, il faut être capable de regarder cette réalité en face et de trouver un nouvel équilibre. On vit aujourd'hui une époque fondamentale de bouleversement et de révolution sur le plan des relations hommes-femmes. Eh bien, le sport, là, est encore à la traîne. Il faut être capable de regarder cette réalité d'attraction d'un côté et de l'autre en face. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on voit à quel point aujourd'hui, au sommet du sport français, il y a des couples qui sont nés de cette relation. Donc voilà une des raisons pour lesquelles les choses bougent difficilement. C'est parce que le sport actuel en France et dans la majorité des pays du monde est le résultat de 20, 30, 40 années d'une culture qui, effectivement, est assez sclérosée, est assez archaïque par beaucoup d'aspects, parce qu'elle est patriarcale, parce qu'elle est celle de l'endroit où on tait la douleur, parce que c'est celle du respect aveugle de l'autorité, parce qu'elle est celle de l'éloignement des parents.
Donc, on comprend que les parents ne doivent pas avoir une confiance aveugle, que les fédérations doivent travailler sur le sujet, qu'il y a la formation des entraîneurs qui doivent réaliser la relation qu'ils ont par rapport au corps de leur athlète, qui est très bien décrite d'ailleurs dans le film Slalom de Charlène Favier. Qui
absolument, remarquable, il faut absolument voir ça.
Et il y a le public qui doit aussi demander des comptes, je pense. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait une femme qui ait été élue présidente du CNOSF, hein, le Comité National Olympique et Sportif Français, qu'on a reçu la semaine dernière parmi les candidats d'ailleurs, est-ce que ça, le fait que ça soit une femme qui dit vouloir travailler sur ces questions, sur la féminisation, est-ce que
je crois que c'est important.
On sait que ça peut aider.
Bien sûr que c'est important, ne serait-ce que sur un plan symbolique. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui va se passer concrètement. Je sais que Mme Bounéoulad m'avait téléphoné, parce que ce livre, je sais, a été dans les mains de tous les candidats. Je crois que Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle, pas avec Mme Henriques. Je crois.
On a interrogé les deux hein, sur le sujet pour être sûr.
Non, mais évidemment, je crois qu'elle.
Il se passe quelque chose après.
Voilà, je pense que les femmes sont plus touchées par, par ces questions, naturellement, mais il ne faut pas non plus être naïf. Il y a eu des femmes qui ont su pour Gilles Beyer, par exemple, dans la Fédération française des sports de glace, et qui savaient depuis longtemps et qui n'ont rien dit. Les femmes ne sont pas des saintes parce qu'elles sont des femmes sur ces questions. Certes, il y en a très très peu. Moi, j'ai rencontré extrêmement peu de cas dans lesquels, je les compte sur les doigts d'une main, dans lesquels ce sont des femmes qui ont été responsables d'abus sur des enfants. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle les femmes, à un moment donné, ne peuvent pas être aussi lâches de temps en temps. Néanmoins, c'est un espoir. Donc, pour répondre à votre question, c'est un espoir.
Elle s'est engagée et on vérifiera, bien sûr, comme on vérifie toujours quand des personnes prennent des engagements à l'antenne. On arrive malheureusement à la fin de l'émission. Merci à notre invité Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac. Merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Une fois encore, nous vous recommandons également le film Slalom de Charlène Favier, toujours à l'affiche. La semaine prochaine, nous continuerons notre cycle sur les risques pour les jeunes sportifs. Nous recevrons Stéphane Klesch, coach professionnel et accompagnateur professionnel performance INSEP. Pour rappel, l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, l'usine à champions. Dans cet été, donc très chargé en gros événements sportifs, nous évoquerons les risques liés à la crise sanitaire, aux pressions multiples également que subissent les athlètes. Nous échangerons sur les conséquences importantes, notamment sur le plan mental pour nombre d'entre eux. Nous présenterons enfin les pistes pour prévenir ces risques. Nous comptons toujours sur vos idées, annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch. Bon sport, très bonne semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine dans Vivons Sport.
Merci à vous.
Et Lormanodou qui accélère, Lormanodou qui termine, Lormanodou est championne du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça.
Regardez l'équipe de France qui fait la saga.
Saga Africa, ambiance de la
sport has the power to change the world. It has the power to unite people.